Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. Faire taire l'opposition, c'est un art dans lequel semble devenu maître le président turc Recep Tayyip Erdogan. Après les procès pour insulte au chef de l'État, un autre article de loi est très en cours en ce moment dans les tribunaux du pays. Il s'agit de l'article 216 du Code pénal qui punit quiconque, je cite, provoque le peuple à la haine ou l'hostilité. À quelques mois des élections prévues en juin 2023, les supposés coupables sont légion, simples internautes anonymes ou même stars de la chanson comme Gülşen en ont fait les frais. C'est le reportage d'Anne Andlauer.
Elle est l'une des pop stars turques, à tel point que certains la surnomment la Madonna de Turquie. Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, Gülşen, de son nom de scène, vient pourtant de passer 20 jours privés de liberté, 5 jours en prison puis en résidence surveillée, et comparaîtra à nouveau le 21 octobre. Son crime, une vidéo filmée en avril, mais diffusée seulement en août par des médias pro-gouvernement, dans laquelle la chanteuse se moque des diplômés de lycées religieux. Pour ces mots, Gülşen risque 3 ans de prison. L'accusation exacte, elle aurait provoqué le peuple à la haine ou l'hostilité. La star est poursuivie sur la base de l'article 216 du Code pénal turc. Un article ancien, mais qui jouit ces derniers temps d'un succès inédit dans les salles d'audience. Le premier alinéa est ainsi rédigé.
Quiconque provoque publiquement une partie du peuple à la haine ou l'hostilité contre une autre partie du peuple sur la base de ses particularités sociales, raciales, religieuses, confessionnelle ou régionale, posant un danger clair et proche à la sécurité publique, est puni d'un à trois ans de prison.
Journalistes, politiques, célébrités ou anonymes, les enquêtes et procès se multiplient. L'avocat Önder Kırmızıtaş accuse le pouvoir aux mains de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, d'user de cet article contre ses détracteurs.
Ces derniers temps, le pouvoir abuse comme jamais de cet article 216, et ce dans un but politique. Prenez l'exemple de Gülşen. En admettant, ce qui n'est pas le cas, qu'elle ait réellement provoqué une partie du peuple contre une autre, est-ce qu'il fallait activer l'article 216 pour une vidéo vieille de 4 mois ? Absolument pas. L'article précise bien qu'il faut un danger clair et immédiat contre la sécurité publique. Il n'y en avait pas.
Önder Kırmızıtaş, qui est aussi membre dirigeant du Parti Socialiste Républicain, ne conteste pas l'existence d'un tel article dans le Code pénal. Lui-même l'invoque régulièrement pour porter plainte contre certaines personnalités, notamment religieuses. Comme ce théologien qui affirmait en 2019 que les musulmans se soustrayant aux prières quotidiennes devaient être punis et même tués. Mais à chacune de ces plaintes, le même scénario se reproduit.
Vous portez plainte et aucun procureur ne se saisit de votre plainte. Alors il classe l'affaire. Pourquoi ? Est-ce que ces procureurs ont un pistolet sur la tempe ? Non, mais le pouvoir a réussi à créer un climat tel que les magistrats n'ont aucun courage. Je connais ces procureurs et je vois qu'ils ont peur d'agir dans ce genre de dossier. Peur pour leur avenir professionnel.
Cet avocat dénonce donc un double standard dans l'application de cet article, selon que les propos visés servent ou desservent le pouvoir. Erdoğan, un autre avocat spécialisé dans les droits humains, lui reproche d'avoir dévoyé l'article 216 de son intention initiale.
Cet article a été pensé pour préserver les différences, pour protéger les minorités sociales, ethniques, religieuses, contre les discours racistes et haineux. Malheureusement, en Turquie, il sert au contraire à protéger, voire à propager le discours de haine et de discrimination porté par un pouvoir qui se prétend majoritaire. C'est devenu un outil de propagande.
Pour ces deux juristes, ce qui rend l'article 216 particulièrement utile, c'est que sa formulation est assez vague pour être interprétée largement, qu'il permet d'infliger une peine de prison préventive et surtout de désigner des cibles dans un climat préélectoral de polarisation extrême. Önder Kırmızıtaş.
Ils ont emprisonné Gülşen et une semaine plus tard, elle était libérée. Mais entre-temps, les objectifs étaient atteints. Quels objectifs ? Eh bien, intimider la société, faire taire l'opposition, polariser les citoyens. C'est une technique que Recep Tayyip Erdogan emploie avant chaque élection. La polarisation est dans son intérêt. Elle lui permet de consolider sa base électorale, tout particulièrement en cette période de crise économique. Diviser la société en jouant sur les fractures religieuses, confessionnelles, ethniques, c'est l'un de ses outils pour rester au pouvoir.
L'article 216 a rejoint une série d'articles du code pénal turc, tels que ceux punissant l'insulte au président ou la propagande terroriste, qui permettent au pouvoir, via les procureurs et les juges, de s'en prendre à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. En octobre, le photojournaliste Hayri Tunç affrontera un procès sur la base de cet article, déclenché par certains de ses tweets, dont certains ont près de 6 ans. Dans l'un d'eux, il accusait par exemple la police d'avoir commis des tortures contre des étudiants réclamant un logement.
On sent que les attaques augmentent contre les journalistes qui sont sur le terrain au plus près des violations des droits. L'article 216 est une sorte de bâton qu'ils agitent contre nous. Ils se sont rendus compte que l'accusation classique de propagande pour un groupe terroriste ne fonctionnait pas toujours, alors ils ont trouvé autre chose. Mais comme je le dis toujours, c'est quand ils sentent monter une opposition dans la société et qu'ils se sentent vaciller qu'un pouvoir s'attaque aux journalistes.
À l'approche des élections de juin 2023, les détracteurs du président Erdogan s'attendent à une explosion du nombre de procès au nom de l'article 216, mais aussi des discours de haine contre les minorités, les réfugiés et l'opposition au sens large. Des discours, selon toute vraisemblance, qu'aucun procureur ne poursuivra et qu'aucun juge ne condamnera pour provocation à la haine.
Dies ist die Geschichte eines jungen Apachen. Sein Name Winnetou.
Du bekommst eine Aufgabe.
Ich dachte, Vater würde mir eine verantwortungsvolle Aufgabe geben. Er denkt vielleicht, du bist noch nicht so weit. Dann werde ich es ihm beweisen.
Qui a le droit de parler de sujets sociaux ou culturels qui ne sont pas les siens? Un blanc peut-il parler des noirs? Un hétérosexuel peut-il parler des homosexuels? C'est tout le débat sur l'appropriation culturelle. Et il a défrayé la chronique ces dernières semaines en Allemagne sous le titre « Kulturelle Aneignung ». En cause, deux livres pour enfants sur un petit indien Winnetou, écrit à la fin du 19e siècle par l'auteur Karl mais des classiques réédités à l'occasion de la sortie d'un film, mais les critiques deviennent vite virales, les livres sont accusés de véhiculer des images stéréotypées. La maison d'édition a donc pris une mesure drastique, Déborah Berlioz.
Face à la polémique montante, la maison d'édition décide de retirer les livres de la vente. Le militant antiraciste Tahir Della ne peut que saluer cette mesure. Il travaille pour l'Association pour les personnes noires d'Allemagne.
Ces histoires mettent en scène un stéréotype de l'indigène qui ne correspond en rien à la réalité. Et surtout, ces livres font l'impasse sur le contexte. Nous devons absolument parler du fait qu'il y a eu un génocide des indigènes en Amérique, que des sociétés, des cultures entières ont été détruites.
L'ethnologue Suzanne Schroeter ne partage pas cet avis. Certes, les livres ne mentionnent pas assez le génocide et ils ne brillent pas par leur authenticité. Mais selon l'ethnologue, on ne peut pas les accuser de racisme.
À l'époque où ces livres ont été écrits, c'était un narratif positif qui allait à l'encontre du racisme habituel. Winnetou n'est plus très important aujourd'hui, mais il y a 50 ans, c'était une figure d'identification forte pour les jeunes Allemands.
Il n'empêche que Winnetou est un cas flagrant d'appropriation culturelle, ou « Kulturelle Aneignung » dans la langue de Goethe. Un Allemand, Karl May, s'est en effet emparé d'une culture qui n'était pas du tout la sienne pour en faire le centre de ses romans. Mais selon Suzanne Schroeter, l'appropriation culturelle n'a rien de négatif. Au contraire, elle serait à la base même de la culture.
Dans l'histoire, des groupes se sont toujours appropriés les inventions et les progrès d'autres groupes, avec ou sans leur accord, pour ensuite continuer de les développer.
Mais pour Tahir Della, l'ethnologue confond échange culturel et appropriation.
Pendant plus de 500 ans, les sociétés européennes ont colonisé tous les autres continents. Elles ont détruit les cultures et les sociétés présentes avant leur arrivée, et maintenant elles s'en approprient des caractéristiques.
Un emprunt à une autre culture n'est pas en soi problématique. Il le devient quand il s'inscrit dans un contexte de domination. Si le débat autour de l'appropriation culturelle s'est enflammé cet été, il est loin d'être nouveau. Outre-Rhin, il a notamment commencé autour d'un sujet typiquement allemand, le carnaval. Les déguisements d'Indiens, d'Esquimaux ou autres populations dites indigènes ont ainsi été largement critiqués voire bannis de certains jardins d'enfants.
Aux États-Unis, les populations indigènes et noires ont créé le slogan « Je ne suis pas un déguisement ». Je le trouve très pertinent car il montre bien que quand les Blancs se déguisent en Indiens ou autres, ils réduisent les gens à des caractéristiques superficielles sans prendre en compte tous les éléments constitutifs d'une culture.
Après les plumes sur la tête, ce sont les dreadlocks qui se sont transformés en pommes de la discorde. Le mouvement écologiste lycéen Fridays for Future a ainsi refusé qu'une chanteuse se produise lors d'une manifestation à cause de ses dreadlocks blondes. Selon le mouvement écologiste, je cite, « Les personnes blanches ne devraient pas porter de dreadlocks car elles s'approprient une autre culture sans vivre l'oppression systématique qui se cache derrière. » Susanne Schroeter a du mal à comprendre ces critiques. Elle pointe que de nombreux Occidentaux portent des dreadlocks en signe de solidarité avec des populations noires opprimées. Pour elle, ce débat pourrait même s'avérer dangereux.
Évidemment, on peut abandonner les dreadlocks, on peut aussi arrêter de s'occuper d'autres cultures. Mais cela va-t-il vraiment nous aider à mieux nous comprendre ? Je ne crois pas. On va plutôt voir des comportements d'évitement. Selon moi, c'est là le véritable danger de ce débat. Cela risque de diviser encore davantage notre société.
Tahir Dela, au contraire, y voit une chance. Pour lui, il ne s'agit pas d'interdire aux Blancs de porter des dreadlocks, mais ceux qui arborent cette coiffure devraient essayer de comprendre pourquoi cela peut être mal pris par certains groupes, et ils devraient s'informer davantage sur le contexte dans lequel cette coiffure est née et sur ce qu'elle signifie. Quant à écrire sur une autre culture, évidemment cela reste possible, mais il faut savoir remettre en question sa perspective d'occidental et donner la parole aux premiers concernés.
L'égalité homme-femme, la violence faite aux femmes, mais aussi le couple, la sexualité, autant de thèmes pour lesquels les interlocuteurs manquent parfois. Dans le nord de la France, ce sont les conseillers et les éducateurs qui vont au-devant de la population dans des zones défavorisées. Cinq vannes appelées Nina et Simone sillonnent les Hauts-de-France. Il s'est arrêté la semaine dernière dans un quartier d'Amiens, c'est le reportage de Lise Verbeck.
Lynn Rodien vient de garer son van jaune vif.
J'essaye d'ouvrir le van, j'ouvre les portes, déplie la tonnelle pour créer un espace délimité, défini, chaleureux. Voilà.
L'éducatrice spécialisée prépare une table avec des madeleines, des bonbons, mais aussi de grands bocaux remplis de préservatifs et de lubrifiants. Le café est à peine sorti que déjà une personne s'arrête. C'est Marie, une habitante du quartier.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Vous allez bien ?
Ça va, et vous ?
Oui. Est-ce que vous voulez boire un petit café ? Je suis complètement en train de m'installer.
Lynn Rodien fait partie de l'association Agena qui vient en aide aux femmes victimes de violences.
Et regardez, il y a du sucre, il y a même un petit bonbon.
Depuis le mois de mai, elle sillonne les routes du département de la Somme avec son point d'écoute et de conseil itinérant.
On est devant un van, voilà, sur lequel c'est écrit « Pas de tabou ». On parle de tout ici.
Gratuit, anonyme et sans
voilà.
Rendez-vous.
On est d'accord ?
En voiture Nina.
Exactement.
Et Simone.
Voilà. On parle de la vie de couple. On parle de ce qui s'y passe quand on vit à deux.
Marie connaît ouais, l'association Agena qui l'a aidée par le passé.
Moi, j'ai vécu de la violence ouais, pendant assez longtemps. J'ai encore pas mal de séquelles. C'est vrai que j'y pense encore souvent. Mais comme je dis, j'arrive à me libérer de tout ça. Et puis j'en suis contente parce que si j'avais pas été de l'avant, et ben, j'en serais peut-être pas sortie, comme on dit toujours. Mais il faut aller de l'avant. Et même si ça fait mal, il faut.
L'idée de ce van, Nina et Simone, qui va à la rencontre des gens, est selon elle essentielle.
Quand on voit des gens comme ça, un van comme ça, moi je dis, il faut y aller. Faut pas rester dans son petit coin et puis dire... on va s'en sortir, ça recommencera plus, non. Ça recommence toujours.
Des personnes comme Marie, Lynn Rodien en rencontre régulièrement. Formée à l'écoute et à l'aide des femmes victimes, elle les reçoit dans le van, un espace cosy, bienveillant, qui invite à la parole.
Alors il y a une femme qui est venue pour me parler des violences qu'elle subissait, et c'était la première fois qu'elle en parlait à un professionnel. Donc là, de pouvoir orienter, de donner les bons conseils, les bonnes informations... On a un petit fascicule avec l'annuaire des avocats. Et puis nous, on sait les avocats qui sont spécialisés dans le droit de la famille aussi, parce qu'en fait, le droit, c'est vaste. De voir prendre des rendez-vous avec elles, parce que certaines n'osent pas, parce qu'elles ne peuvent pas prendre de rendez-vous chez elles, parce que leur téléphone est fliqué. Donc pouvoir prendre un rendez-vous avec mon téléphone ici, ou de faire une recherche sur Internet de mon ordinateur ici, ça évite aussi d'être démasquée, en fait, dans ce désir de protection et de fuite.
À chaque endroit où l'éducatrice pose son van, elle est en partenariat avec une association locale pour tisser des liens au maximum et constituer un réseau. Cet après-midi-là, elle a répondu à l'appel de Maude Tarlier, qui gère une épicerie solidaire mobile de l'association Coalia.
Nous, on a beaucoup de gens qui sont isolés. Nous, on discute un petit peu, mais en fait, ça reste toujours en relation avec l'alimentation, puisque moi, je distribue des produits alimentaires ou d'hygiène. Parfois, de leurs problèmes aussi, un petit peu, mais ça reste en surface. Mais je trouvais aussi d'avoir quelqu'un de l'extérieur, et puis c'est toujours bien d'avoir d'autres personnes à qui se confier, et sur d'autres sujets aussi. Et qui sont formés en plus pour aborder des sujets comme la discrimination, etc.
Vous voulez un petit café ?
La dernière personne à monter dans le van cet après-midi-là, c'est une jeune fille, Enaël. Comme souvent, celles qui viennent ici n'osent pas se confier d'emblée. C'est le cas d'Enaël qui ne parlera pas à la première personne.
Et du coup, vous aidez les femmes qui ont, comment dire, qui se sentent pas bien dans leur corps.
À quel niveau ?
Vis-à-vis des jugements des gens, par exemple, elles vont se trouver peut-être trop grosses. Ils vont toujours se trouver un défaut. Ça, c'est la femme.
Enaël ne racontera pas son histoire, mais quand l'éducatrice lui parle de son association Agena, qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales, la jeune fille se renseigne l'air de rien, notamment sur les groupes de parole.
Regardez, on a un temps qui s'appelle des cafés discussion. Et donc il y a des femmes qui peuvent se retrouver autour d'un café pour discuter entre elles. Et il y a quelqu'un qui est là, qui anime l'échange, pour pouvoir un petit peu partager. Vous aimeriez bien y participer? Oui. Ben regardez, vous avez un numéro de téléphone.
Depuis le mois de mai, le van a fait étape dans des dizaines de communes, beaucoup en zone rurale, où l'association constate que les violences faites aux femmes sont encore plus taboues, plus banalisées et les victimes plus isolées.
Et dans les Balkans, la question des violences sexuelles commence à devenir un sujet de colère dans le débat public. Dans la petite république du Kosovo, au sud de la Serbie, le viol collectif subi par une petite fille de 11 ans a déchaîné de nombreuses manifestations. Les explications de Simon Rico.
C'était le dernier week-end, juste avant la rentrée de septembre. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre, faisant la une de tous les médias du Kosovo, ainsi que dans les pays voisins où vivent des Albanais. 4 jeunes hommes venaient d'être arrêtés et un cinquième était toujours en fuite après le viol collectif d'une fillette de 11 ans dans un parc de la capitale Pristina. Peu à peu, les détails de l'enquête ont fuité et l'on a découvert une histoire aussi triste que sordide d'agression sexuelle qui durait depuis 2020. Face à l'horreur de ce fait divers, des manifestations spontanées se sont très vite organisées. Plusieurs bâtiments du gouvernement kosovar ont été recouverts de peinture rouge, tandis que la foule réclamait des mesures d'urgence pour mieux lutter contre les crimes sexistes et sexuels. La présidente Vjosa Osmani et le premier ministre Albin Kurti ont pris la parole, s'indignant d'un acte odieux et choquant et promettant une punition méritée pour les auteurs. Quant au chef de la police du Kosovo, il a fini par démissionner. Selon un rapport publié en 2022, le nombre de cas de viol signalés à la police kosovare a doublé ces 2 dernières années. Mais plus de 9 agressions sexuelles sur 10 ne seraient jamais signalées de peur du qu'en dira-t-on, soulignent les auteurs. Dans le monde albanais, la famille est le noyau qui structure toute la société et l'omerta continue de régner sur les violences conjugales ou l'inceste notamment. Mais à l'initiative de jeunes militants et surtout de jeunes militantes engagées dans des collectifs qui se tiennent loin des partis et des ONG jugées trop institutionnalisées, la parole commence à se libérer et les mentalités à évoluer, surtout depuis le Covid. Les manifestations qui ont touché aussi l'Albanie et la Macédoine du Nord après ce viol collectif d'une fillette en sont également la preuve, de même que la présence de nombreux hommes, essentiellement de moins de 40 ans, dans les cortèges.
Accent d'Europe est réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur le site de RFI, à la rubrique podcast, sur Facebook et sur Twitter. À demain.